Philippe, 6 mai 83, Rimont.
Je prends tout de suite cette question dans le livre Thétat de la métaphysique. Aristote montre que l'acte du mal est pire que la puissance du mal, qui porte en elle à la fois bien et mal. Pouvez-vous expliquer comment il a conclu que le mal n'existe pas en soi, indépendamment des réalités sensibles, parce que, dit-il, son acte est postérieur à sa puissance? C'est une belle question, ça. Vous voyez bien. Dans le livre Thétat, je relis pour que vous compreniez bien. Dans le livre Thétat, tous ceux qui ont lu le livre Thétat d'Aristote, n'est-ce pas ? La première année, pas encore, la seconde année, j'espère. Le livre Thétat d'Aristote, il faut le lire, c'est en grec. Alors, on lit la traduction, on a le grec à côté. De temps en temps, on louche sur le grec, ou bien on fait l'inverse. On lit le grec et on louche sur le français. Pour ceux qui peuvent le lire en grec, il faut le lire en grec. C'est un livre très important. Heidegger considérait que c'était le livre majeur de toute la philosophie grecque. Alors, je mets l'autorité d'Heidegger pour que ça vous impressionne davantage. Dans le livre Thétat de la métaphysique, Aristote montre que l'acte du mal est pire que la puissance du mal. Pourquoi ? Parce que la puissance du mal est ordonnée vers le bien et le mal. La puissance du mal, du reste, qu'est-ce que c'est qu'exactement ? C'est ça qu'il faudrait savoir. Le mal existe, donc il nous est donné comme quelque chose qui existe. Qu'est-ce que c'est que le mal ? Prendre l'existence du mal, prenez tout simplement la cécité. Un homme né aveugle. Vous direz spontanément que ce n'est pas un bien, que c'est un mal. Et dans l'évangile, on voit bien d'où vient ce mal. Il est né aveugle. Il est né aveugle parce que normalement, ut in pluribus, la plupart des hommes naissent avec la capacité de voir. Donc il y a un manque. Spontanément, ça c'est tout de suite. On voit tout de suite que le mal, c'est un manque. Alors, le mal là, c'est un fait existant. C'est un fait, il est né aveugle. Vous avez un autre mal, l'orgueil. C'est un acte mauvais. Alors, où est la puissance du mal ? C'est intéressant de voir ça, parce qu'en lit ça, on dit très bien la distinction acte et puissance, l'être en acte, puisque nous sommes là, n'est-ce pas ? L'être en acte, l'être en puissance. Donc cette distinction divise ce qui est. Ce qui est, vu du point de vue de l'être, se divise en être. Est-ce que je peux transposer cette question-là, cette division-là, au mal ? Mal. Ce qui est mal en puissance, en acte. Quel genre de transposition de division ? C'est intéressant de poser la question, parce que je peux lire ça comme ça tout simplement, en disant oui, oui, c'est très vrai, il fait une explication, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ce qui est mal, ce qui est, très bien, l'être en acte, l'être en puissance. Pensez toujours devant cette distinction d'Aristote, puisque c'est le point de départ de cette distinction, celui qui dort et celui qui est éveillé. C'est toujours très important au début d'un cours. Celui qui dort et celui qui est éveillé. Donc celui qui est en acte et celui qui est en puissance. Alors celui, évidemment, celui qui est éveillé, il est en acte. Celui qui dort, il est en puissance. Il est en puissance à être éveillé. Alors, il est en puissance à être éveillé, il est en puissance à se réveiller, tout simplement, à être capable d'écouter. Tandis que ce qui est mal, peut-il se diviser en puissance et en acte ? Posez-vous la question, hein. Est-ce que je peux diviser ce qui est mal en puissance en mal. En deux. En puissance et en mal. Parce qu'au fond, si le mal n'est donné toujours que dans un jugement d'existence, ceci est mauvais. Et que le mal est une privation. Donc il n'a pas de forme. Alors peut-on diviser le mal en acte et en puissance? Parce que le mal existe, voilà ce que je veux dire. Le mal existe. Mais il est quoi le mal? Quand vous essayez de prendre ce que c'est que le mal, ça vous sort des doigts, hein? Vous ne savez pas ce que c'est. Privation. Il n'a pas de forme. Donc si uniquement jugement d'existence, et le jugement d'existence il est toujours en acte. Est-ce que le mal existe en puissance? Est-ce qu'il y a une puissance à l'égard du mal? Je pose la question, parce que, vous voyez, c'est toujours très délicat, ça, d'une façon générale, hein, pas d'une méthode. Hein. Quand on fait une distinction, on fait une division, on divise quelque chose, faisons grande attention, cette division, c'est une division à l'égard de l'être. Est-ce que le mal est? Dans la mesure où le mal est, la division en acte et en puissance peut se porter. Dans la mesure où le mal est. Dans la mesure où le mal n'est pas. La division ne vaut plus. Alors elle devient métaphorique. Vous voyez, transposée symboliquement. C'est métaphorique. Alors c'est toute la question. Dans la mesure où le mal est. Donc, ce qui est mal. Division en puissance en acte. Alors, évidemment, par exemple, le vice, c'est ça qu'Aristote pense, hein? Le vice, un homme vicieux, ça n'existe pas, vous n'avez pas l'expérience de la chose, mais vous le voyez pour chez le voisin, n'est-ce pas? Bon. Alors, un homme vicieux, il est en puissance à l'égard du vice, et puis il peut être en acte. Nous sommes tous en puissance à faire une colère monstre. Bon, si vous faites une colère monstre, vous êtes en acte à l'égard du mal. Et vous êtes en puissance à être en colère. Normalement, si vous êtes un être mort, un être bien constitué, vous êtes en puissance à vous mettre en colère. Il y a des gens qui ne peuvent jamais se mettre en colère. N'est-ce pas? C'est ce qu'il y a de plus énervant. Jamais se mettre en colère. Donc, il reste toujours en puissance à l'égard du mal. Il reste toujours en puissance. Il ne passe jamais à l'acte. Celui qui est en puissance à l'égard du mal, celui qui est en puissance, on voit très bien. Alors, la phrase d'Aristote devient intéressante. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut faire grande attention à cette transposition. Il faut faire attention. Donc, dans le livre Theta, Aristote montre que l'acte du mal est pire que la puissance du mal. Qui porte en elle à la fois le bien et le mal. Vous êtes capable de vous mettre en colère. Une vraie colère, une colère destructive, hein, qui est le mal, parce que les petites colères, c'est différent. On est tous capables de nous mettre en colère, d'une colère qui détruit. Bon. La capacité que vous avez d'être en colère qui détruit est moindre que la colère en acte. C'est sûr. Oui. Alors, est-ce que le mal en puissance est-il encore le mal? Est-ce que le mal en puissance est-il encore le mal? Est-ce que le mal n'est-il pas toujours du côté de la... Puisqu'au fond, quand le mal est en puissance, il est moins mal que lorsqu'il est en acte. Alors vous voyez, il régresse. Alors est-il encore mal? Jusqu'où allez-vous d'avoir de la puissance pour toucher le mal? Vous voyez la tentation de considérer la matière pure puissance comme le mal. Alors la matière pure puissance n'est pas le mal. La pure puissance n'est pas le mal. Dans l'ordre physique. Le mal, c'est lorsqu'il y a une disposition vers quelque chose qui est désordonné. Alors, s'il y a une disposition vers quelque chose qui est désordonné, on peut dire qu'il y a le mal en puissance. Mais ce mal en puissance n'est pas radical. C'est là où la distinction en puissance et en acte vis-à-vis du mal n'est pas aussi radicale que la distinction ce qui est. La distinction de ce qui est peut se diviser radicalement en ce qui est en acte et en puissance. Mais pas le mal. Et on sent tout de suite, hein, si on réfléchit un peu, on voit très bien que ce qui est l'être en puissance radicalement n'est pas le mal. Pour qu'il y ait le mal, il faut qu'il y ait une disposition mauvaise, donc un certain acte. Donc le mal n'est pas... En pure puissance, il n'y a plus de mal. Le mal est toujours un acte. Il implique toujours une certaine... vous voyez, un certain manque. Donc c'est relatif à la forme. Puisque le manque, c'est relatif à la forme. Donc si c'est relatif à la forme, il implique une certaine détermination. Alors je continue. Hein. Je crois que ça, c'est facile à comprendre. Que l'acte du mal est pire que la puissance du mal, qui porte en elle-même à la fois bien et mal. Je suis capable de me mettre en colère, je ne me mets pas en colère. Donc je suis en puissance à l'égard de ce mal destructeur. Je peux avoir un revolver, vous présenter, je suis capable de vous tuer, mais je ne vous tue pas, je suis en puissance. Donc c'est moindre que si j'actionne l'exercice, hein. Alors c'est quelque chose qui est moindre. Donc on voit bien que le mal en puissance est moindre que le mal en acte. Très facile à comprendre. Pouvez-vous expliquer comment il en conclut que le mal n'existe pas en soi, indépendamment des réalités sensibles? Le mal n'existe pas en soi, parce que justement, si le mal existait en soi, si le mal était pris en lui-même, il y aurait une certaine forme. Alors le mal est le manque de forme, le manque de qualité. Et c'est pour ça que, de fait, quand je suis jusqu'au bout d'être en puissance, non, je vois la limite. C'est très curieux que je vois plus la limite du mal du côté de la potentialité que du côté de l'acte. Évidemment, si je suis en présence de l'acte pur, je dirais, c'est sûr, mais de l'acte, l'opération. Tandis qu'en puissance, je vois qu'il y a une limite. Pourquoi? Parce que justement, le mal comme tel, alors le mal n'existe pas en soi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de forme du mal, et le mal n'existe que dans un fait existentiel, donc indépendamment des réalités sensibles. Il ne peut pas exister en dehors de la réalité. Le mal présuppose toujours un sujet qui, lui, n'est pas le mal. Et ceci parce que le mal n'est pas pure puissance. Et le mal ne peut pas être pure puissance. Oui, il existe, c'est sûr, il existe, mais il existe toujours dans un sujet qui l'affecte. Le mal est toujours relatif à un sujet. Autrement dit, le mal n'est jamais absolu. Il n'y a pas d'absolu dans le mal. Le mal est toujours relatif à un sujet qui, lui, n'est pas mal. Parce que, dit-il, son acte est postérieur à sa puissance. Alors, son acte est postérieur à sa puissance, c'est-à-dire l'acte Aristote inverse, normalement, dans l'être, quand on divise, l'acte est antérieur à la puissance. Et la puissance est toujours quelque chose de second. L'acte est premier, la puissance est seconde. Aristote dit, dans le devenir, quand je suis en face du devenir, une réalité qui devient, alors à ce moment-là, la puissance est première et l'acte est second. Autrement dit, le mal est toujours saisi à l'intérieur du devenir. Donc le mal, la division, vous voyez, la division qui affecte l'être n'affecte pas directement l'être en mal. Qu'est-ce qui affecte directement le mal? C'est ce qui devient. Alors, ce qui devient se divise comment? Ce qui devient se divise en phusis, forme, phusis, matière. Donc, nature, forme, nature, matière. Ça, c'est la division propre de ce qui devient. Les deux. Alors, cette division doit pouvoir affecter ce qui est mal. Le mal, en effet, est un manque de forme. C'est la négation de la forme. C'est pas la négation de l'être. C'est la négation de la forme dans le devenir. Oui. Et c'est pour ça qu'au fond, on a la loi du devenir, c'est que ce qui est en puissance est antérieur à ce qui est en acte. Je crois que c'est la raison profonde, vous voyez. C'est que la raison profonde, c'est que lorsqu'il s'agit de diviser ce qui est, l'acte est antérieur à la puissance, mais lorsqu'il s'agit du devenir, ce qui est en puissance est antérieur à l'acte. Ça c'est facile à comprendre. Hein. On a d'abord été dans le berceau avant d'être assis sur une chaise. Donc on a été d'abord dans le berceau, on est au point de départ, on est dans un état embryonnaire. Donc on est en puissance, en état embryonnaire. Puis on devient en acte. On met du temps à devenir en acte. Et donc la puissance est antérieure à l'acte, dans l'ordre du devenir. Dans l'ordre du devenir de l'individu. Le mal est toujours dans l'ordre du devenir de l'individu. Et on comprend très bien, parce que c'est le manque de la forme. Dans l'ordre du devenir. C'est un arrêt, l'embryon qui ne progresse pas, qui ne devient pas. Qu'est-ce que c'est que devenir aveugle? C'est une croissance qui ne s'est pas faite. C'est quelque chose qui ne s'est pas fait, qui ne s'est pas réalisé. Il y a eu à un moment donné un obstacle qui fait que la forme n'a pas pu paraître. D'où le mal. D'où le manque. Mais au fond, c'est toute la philosophie du manque que donne Aristote. C'est la philosophie du manque. C'est que le manque, c'est une forme qui devrait apparaître et qui n'apparaît pas à cause d'un obstacle. Et donc ça ne peut se comprendre que dans l'ordre du devenir. Et le mal est toujours lié au devenir. S'il n'y avait que l'être, il n'y aurait pas le mal. Je ne peux pas comprendre le mal dans l'ordre de l'être. Je le comprends dans l'ordre du devenir. C'est ça qu'au fond, qu'Aristote veut nous montrer ici. Oui. L'orgueil, oui, c'est dans le devenir. C'est dans une opération. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est la forme. C'est la forme parce qu'il y a un désordre. Il y a un désordre dans l'orgueil. C'est qu'il y a la prima de l'intelligence sur l'amour qui fait le désordre. Oui. C'est la culpabilité, la faute implique toujours un désordre, donc toujours un manque de forme. Alors là, c'est de l'opération spirituelle, mais c'est encore à devenir. Je crois que c'est ça qui est intéressant dans cette phrase d'Aristote. Je crois que c'est nous montrer que le mal ne peut se comprendre qu'à l'intérieur d'un devenir. Une réalité qui n'arrête pas de devenir ne peut pas avoir de mal. Vous êtes en face de l'acte pur. Autrement dit, le mal s'enracine toujours dans la potentialité d'un être. Mais pas la potentialité radicale. Dans la potentialité à l'égard de la forme. Oui. Je crois que c'est ça l'intérêt de cette petite phrase d'Aristote. Et ça, c'est très bien, parce que ça fait mieux comprendre où se situe métaphysiquement le mal. Le mal se situe, pour que le mal puisse apparaître, il faut qu'il y ait un devenir. Là où il n'y a pas de devenir, il n'y a pas le mal. Oui. Donc, nécessairement, vous êtes dans la loi du devenir, et dans la loi du devenir, la puissance est antérieure à l'acte. Oui. Et ça, je crois qu'Aristote veut nous faire comprendre. Alors, c'est bref, hein, c'est comme toujours dans Aristote, c'est une très grande densité. Mais uniquement la division de ce qui est pris du côté ne peut pas nous faire comprendre ce que c'est que le mal. C'est pour ça, vous voyez, qu'on sent très bien, imagine, on sent métaphysiquement que transposer cette division du côté du mal, c'est comme si on la transposait du côté du devenir. Ça ne colle pas tout à fait. Ce qui divise l'être ne divise pas immédiatement le devenir. La division de ce qui est en mouvement est une division propre à ce qui est en mouvement, qui n'affecte pas directement l'être. Je vous ai toujours dit ça, pour bien comprendre que la question de la nature forme et la nature matière divise ce qui est nu, ce qui est en devenir, et ne divise pas l'être. L'être ne se divise pas en matière et forme. Ça, c'est capital de comprendre. Hein. C'est, une fois qu'on a saisi cette distinction, on ne peut plus être marxiste. C'est déjà bien. Une fois qu'on a saisi ça, une fois qu'on a saisi que l'être ne se divise pas en matière et forme, l'être se divise en substance et accident. Ce n'est pas la même chose. En substance et qualité. Ça, c'est la première division. Dans l'induction analogique de l'acte, il prend des exemples de deux ordres, les uns allant du mouvement à l'acte, faculté de bâtir à bâtir, tout à fait d'accord, les autres de la substance à quelque matière. Pouvez-vous expliciter ce qu'il entend par cette deuxième sorte? Oui, c'est qu'Aristote se sert, hein, quand il s'agit de l'induction, dans le livre Théta, quand il s'agit de l'induction qui nous fait découvrir l'être en acte et l'être en puissance. Aristote se sert exprès d'exemple à des niveaux tout à fait différents. C'est évident que pour nous, la distinction entre le point de vue de l'être en puissance et de l'être en acte se fait premièrement du côté du vivant. Capacité de voir et voir. Capacité de bâtir et bâtir. Là, tout le monde est bien obligé d'accepter ça. L'architecte ne construit pas toujours. Mais il est architecte quand il construit. Autrement, c'est sur sa carte de visite. Il est dénommé architecte, mais il n'est pas architecte. C'est comme le chirurgien. Le chirurgien, il est chirurgien quand il opère. Avant, il a la capacité d'opérer sur sa carte de visite. Donc, il est dénommé tel. Vous voyez, c'est la dénomination. Tandis que quand il opère, c'est plus la dénomination, c'est l'exercice. Très curieuse, hein. C'est intéressant parce que ça nous fait bien comprendre ce que représentent les deux états particuliers, l'état d'être en acte et l'état d'être en puissance. Bon, c'est là où on a l'expérience la plus immédiate. Aristote prend donc l'expérience la plus immédiate. Ensuite, il se sert de certaines conclusions qui ont été données avant. Philosophie de la nature, les rapports entre la matière et la forme. Où on trouve quelque chose d'analogue, où on le retrouve au niveau, alors non plus au niveau de l'opération d'Ali, on le retrouve au niveau structure radicale de l'état parfait et l'état parfait. Alors il prend ce second sorte d'exemple de la substance à quelque matière. L'état d'imperfection, l'état de perfection, l'état de perfection, l'état d'imperfection. La matière est dans un état d'imperfection à l'égard de telle ou telle forme, de telle ou telle détermination. Ou alors je peux aller encore plus loin et dire qu'il y a des substances séparées. Je peux même aller jusque-là. Ça fait partie des traditions qu'Aristote se sert. On peut dire qu'il y a une substance séparée indépendamment de la matière. Donc l'acte peut exister indépendamment de la matière. Il peut y avoir des états de perfection indépendamment de la matière, indépendamment d'un état d'imperfection. Mais c'est simplement pour que dans l'induction, on puisse regarder non seulement le point de vue des opérations vitales, mais aller plus loin et se servir aussi de quelque chose qui, justement, affecte la réalité et pas seulement l'opération vitale. Je crois que c'est ça l'intérêt. C'est que pour que cette induction porte, il faut qu'on touche des réalités tellement diverses qu'on ne puisse pas s'arrêter à tel niveau. Le niveau vie, le niveau mouvement, mais qu'on soit obligé d'atteindre ce qui est. C'est tout le but de l'induction d'Aristote. Alors, dernière question, et comment infini et vide n'existe qu'en puissance? L'infini et le vide n'existent qu'en puissance et pas en acte. Vous avez vu le vide en acte? C'est impressionnant. Le vide en acte, cette espèce d'abîme, hein, il est en acte. C'est la définition du canon, vous savez. On voit très bien comment on peut faire le vide. Je fais le vide, donc vous le faites en acte. Le vide n'existe qu'en puissance. Et l'infini n'existe qu'en puissance. L'infini n'existe qu'en puissance parce que l'infini, c'est ce qui est capable, dans la perspective d'Aristote, hein, dans la perspective d'Aristote, c'est-à-dire dans la perspective d'une philosophie réaliste, par rapport au jugement d'existence. L'infini n'existe pas en acte, mais il existe en puissance parce que je peux toujours en ajouter. C'est propre du divisible. Je peux toujours en ajouter. Donc il existe en puissance. Il est actuel, mais il n'existe pas en acte. C'est ça que pour Aristote, c'est ceci, la vision d'Aristote par rapport à la Pairone, à l'infini des premiers socratiques, qui disait que la première réalité est l'infini en acte. Pour Aristote, l'infini n'existe pas en acte. Saint Thomas dira Dieu est infini. Et donc, en Dieu, l'infini est en acte. Mais il faut passer par Dieu. Pour que l'infini soit en acte, il faut passer par Dieu. Enfin, lui, il est bon intelligent, ça. Pour avoir affirmé qu'il existe un être premier qui est acte pur pour pouvoir dire qu'il est infini. Donc il faut passer par l'acte pur. Alors par l'acte pur, je peux avoir cette conception de l'infini qui est purement négative. Quand je dis que Dieu est infini, je vais dire en Dieu, il n'y a pas de limite. C'est ça que ça veut dire, c'est purement négatif. Vous n'avez pas une conception positive de l'infini. Vous avez une conception purement négative de l'infini. C'est pour ça qu'il faut passer par l'acte pur. Vous ne pouvez poser l'infini qu'après avoir posé la simplicité de Dieu. Je vous ai déjà dit cette chose qui est intéressante au point de vue de l'histoire de la théologie, c'est de voir que pour saint Thomas, l'infini est dépendant de la simplicité. Autrement dit, on dit d'abord que Dieu est absolument saint, puis ensuite on dit que Dieu est infini. Infini dans son être, sa manière d'exister et d'être infini. Et c'est purement négatif, et ça repose directement sur la simplicité. Si vous êtes attentif, vous voyez que c'est pas de la simplicité de Dieu, Dieu est l'être le plus simple, c'est-à-dire l'être le plus déterminé qui soit. La simplicité, c'est la détermination absolue. Vous êtes simple dans la mesure où vous êtes déterminé. Ceux qui cherchent la simplicité, c'est dans la mesure où ils sont déterminés. Quand vous êtes indéterminé, vous êtes d'une complication extraordinaire. On sait très bien, les domaines où on est en puissance, on est très compliqué. Les domaines où on est saint, où on est déterminé, on est simple. La simplicité, c'est l'apanage du premier. C'est l'apanage du principe. Dès que vous êtes second, vous êtes compliqué. On est second, mais on est très simple. C'est pour ça qu'on est compliqué. On est le plus compliqué qui soit. On est simple quand on est premier. Être simple, c'est l'apanage du premier. C'est très important pour comprendre que quand je dis simple, je dis que Dieu est premier. Il est premier, donc il est simple. Et c'est à cause de la simplicité de Dieu que je dis qu'il est infini. Parce qu'il est simple, il n'y a pas de limite en lui. Parce qu'il est relatif à rien. Donc il est infini. Donc vous voyez, cet infini est pris négativement. Il n'y a pas de limite en lui. Alors, ce qui est curieux au point de vue de l'histoire des doctrines, c'est à partir de Don Scott que l'infini est devenu l'attribut premier de Dieu. Et de Don Scott, Descartes. Et de Descartes, Hegel. C'est voir comment l'infini a tout fait sauter. C'est très très curieux ça. Parce qu'on l'a pris de façon positive et donc imaginative. Dès que vous prenez l'infini en premier lieu, vous ne pouvez plus le prendre négativement. Alors vous le prenez positivement. Et là ça devient quelque chose d'imaginatif. Dieu est infini, il est immense. Oui, il enveloppe tout. C'est ça l'infini. Hein. C'est que, imaginativement, vous faites ça, l'impression, c'est quelque chose de, c'est l'enveloppant. Non. L'enveloppant, c'est imaginatif. Alors, voyez comment l'infini ne peut être vraiment... L'infini n'existe... Bon, pour moi, je ne peux le saisir que négativement et par rapport à l'acte premier. Autrement, l'infini est quelque chose de uniquement en puissance. On peut toujours en ajouter. Dans le monde physique, dans le monde de la division. Alors, le vide, c'est la même chose. Le vide, c'est l'opposition... au lieu. C'est ça le vide. Parce qu'il n'a pas de lieu. Donc c'est pris négativement aussi. Donc s'il est pris négativement, il n'existe. Il n'existe qu'en puissance et il n'est en acte que dans l'intelligence. C'est l'intelligence qui, dans son jugement sur le vide et l'infini, le rend actuel. C'est pour ça que je peux parler du vide, je peux parler de l'infini. Ce sont des êtres de raison. Il n'est en acte que dans l'intelligence. Il n'est pas en acte dans la réalité. Et le seul infini qui est en acte dans la réalité, c'est Dieu. Et je le saisis négativement. Et je ne le saisis pas positivement. Bon. Il n'y a pas d'autres questions ? Par rapport à ce que nous avons dit la dernière fois, n'est-ce pas ? Vous voyez bien, c'est la dernière fois ce que nous avons essayé de comprendre, les cinq modalités de l'acte et de la puissance. Hein. Les cinq modalités de l'acte et de la puissance. Nous avons essayé de comprendre ça. Je reviens pas dessus, nous l'avions déjà vu, nous avons vu comment nous devions, que nous devions bien voir qu'il n'y a pas d'autre modalité de l'acte de la puissance. Alors, si vous en trouvez une, dites-le moi. C'est génial, et vous ferez une thèse sur la sixième modalité de l'acte de la puissance. Il faut toujours chercher, il faut toujours chercher. Alors, je vous ai dit que je crois qu'il n'y en a que cinq. C'est très intéressant et très important, ça, vous voyez. Parce que c'est quand même là où j'ai toute la structure de l'acte. C'est ça qui est intéressant dans ces cinq modalités de l'acte de la puissance. J'ai toute la structure de l'acte. L'acte comme tel est quelque chose de très difficile à saisir. La ratio actus, hein, la raison d'acte, c'est pas commode du tout à saisir. Alors c'est intéressant de voir que la raison d'acte se donne à moi immédiatement dans les cinq modalités. Je crois que c'est très important pour nous de voir ces cinq modalités de l'acte. Mais ce que la scolastique a laissé complètement tomber. Ça, chercher dans un lit, dans les scolastiques, quand vous avez le temps de chercher dans la scolastique, vous cherchez les cinq modalités de l'acte. Vous ne les trouverez pas. On a oublié. Alors, si on a oublié ça, on a oublié, vous voyez, de pousser l'analyse de l'être jusqu'au bout. Parce que les cinq modalités...
Ceci me permet une dernière réflexion de découvrir le principe de causalité finale au niveau de l'être.
Et ceci, je crois, très important pour nous. Le principe de causalité finale. Alors, un petit excursus sur le principe de causalité finale, parce que c'est quand même très important. Les différents mémoires de licence, il y en a un sur la causalité finale, la finalité. Alors, je pourrais le mettre à la disposition après la licence, hein, avant, c'est secret. Mais après, alors, le point de vue de la finalité. Comment la finalité se donne à nous sous les différents aspects. Et c'est vrai, la finalité se découvre. C'est quand même très important de voir quel est le point de départ de la découverte de la finalité et quel est l'ultime moment de ma précision de la finalité. Quel est le premier moment où vous découvrez la finalité ? Dans l'ordre génétique. Quel est pour vous le premier moment où vous découvrez la finalité? Parce que c'est une des choses très importantes que nous devons redécouvrir. Je dis bien, chacun d'entre nous, on doit redécouvrir la finalité. Elle est complètement perdue dans le monde d'aujourd'hui. Complètement. Alors il faut la redécouvrir. Quel est le premier moment où vous découvrez la finalité? Vous découvrez la finalité au niveau du facere, au niveau de l'activité artistique, par le point de vue de l'œuvre. Intéressant, c'est l'œuvre. L'œuvre qui est la première finalité que je découvre. Normalement, quand vous travaillez pour réaliser une œuvre. Hein, et vous le dites. On dit, qu'est-ce que tu fais là? Ah, je suis en train de faire. C'est ce qu'on vous dit spontanément. Vous voyez quelqu'un qui travaille, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ah, je fais ceci. L'œuvre est le but. L'œuvre est la fin. Et la scolastique, à la suite de saint Thomas, a dit que l'œuvre est à la fois effet et fin. Et c'est vrai, elle est finis effectus, elle est fin et effet. C'est très joyeux que le but est à la fois fin et effet. Dans l'œuvre, il y a quelque chose qui me finalise, et dans l'œuvre, il y a quelque chose que je réalise. Quand j'ai un but à atteindre, une œuvre à réaliser, cette œuvre commande mon intention. Je travaille en vue d'eux. Donc ça commande mon intention. Et en même temps, l'œuvre est le résultat. C'est les deux. Et alors, vous voyez, il y a une espèce de petite contradiction entre les deux. C'est ça qui est très curieux, que l'œuvre implique les deux. Fin et effet. L'œuvre n'est pas seulement un effet. voyez, c'est ce que quelqu'un comme Malraux a très bien senti quand il a dit que l'œuvre d'art est l'antidestin. Alors, c'est ta manière, hein, lui, d'exprimer comme ça. Hein, moi, je dis, finis effectus, c'est plus simple. Tandis que lui, antidestin. Et c'est juste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'œuvre d'art est quelque chose qui est au-delà du temps. Antidestin. Le destin, on est dans le temps. L'artiste, il est dominé par le destin, pas son œuvre. C'est extraordinaire. S'il fait une œuvre de granit, non, s'il fait une œuvre de granit, ça durera. S'il fait évidemment une œuvre de pierre et d'argile, ça ne durera pas très longtemps. Mais s'il fait une œuvre de granit, ça durera. Ça durera au-delà de lui, anti-destin. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui l'intéresse. L'œuvre, en tant qu'elle est fin, en tant qu'elle est le but, elle est quelque chose qui regarde mon intention profonde. D'homme, homo faber, l'homme qui fait quelque chose. L'homme qui fait quelque chose, il fait une œuvre, il réalise une œuvre. Alors, c'est la première expérience que j'ai de la fin. De sorte que quand vous prenez des notes, vous avez l'expérience de la finalité, puisque vous grattez. Et que les notes que vous prenez, c'est à la fois, c'est une œuvre, hein, une œuvre d'art qui finalise et qui est un effet. C'est les choses qui demeurent, le cours passe, l'œuvre demeure. Hein. C'est les choses qui demeurent, les choses qui est au-dessus, l'antidestin. Le destin, c'est de subir le cours. L'antidestin, c'est l'œuvre qui demeure. Alors c'est quelque chose qui demeure, qui reste au-delà. Et bien l'œuvre est toujours quelque chose qui demeure. Elle est fin. Premier sens de la finalité, c'est l'œuvre. Ça, c'est le premier sens de la finalité. Et elle est effet. Je la fais. Alors ça, c'est très très curieux. C'est que cette finalité, je la fais. Je suis capable de la réaliser. Il y a quelque chose, vous voyez, de très grand. C'est pour ça que c'est si séduisant de réaliser une œuvre. Hein. En réalisant une œuvre, je réalise quelque chose. Je fais ma finalité. Je la réalise. Alors, cette finalité, elle est limitée. C'est bien évident qu'elle est limitée. Mais elle est quand même une finalité. Premier sens. Il y a quelque chose qui domine mon opération. Il y a quelque chose qui m'oriente. J'ai un projet. Et le projet, c'est l'anticipation que j'ai en moi de l'œuvre. Et donc, je vois tout de suite que la fin demande d'être anticipée par l'esprit. La fin est premièrement dans l'esprit, avant d'être réalisée dans la réalité. Et c'est ce qui va faire quelque chose de très particulier à la causalité finale, c'est que la causalité finale est toujours liée à l'esprit, et en même temps, elle est liée à la réalité. Elle est deux, elle est à la fois subjective et objective. Elle n'est pas totalement objective. Elle est aussi subjective. Le sujet est intéressé. Il a en lui un projet. Il n'y aurait pas d'œuvre s'il n'y avait pas de projet. Il a un projet en lui. Et le projet est premier. Et l'œuvre est second. Et cependant, l'œuvre demeure au-delà du projet. Et donc, il y a une espèce de relation mutuelle entre les deux. Alors, vous mettez bien que le projet est antérieur. Le projet est de l'ordre de l'intentionnalité. C'est une forme intentionnelle, le projet. C'est pas réel. C'est pas réel dans le sens absolu. L'œuvre est réelle. Donc, du côté de la réalité existante, l'œuvre est plus ontologique que le projet. Il a un primat sur le projet qui est d'ordre intentionnel. Alors, c'est curieux de voir que la causalité finale est premièrement selon la première conception que j'en ai, génétiquement, je peux dire que la causalité finale, génétiquement, est d'abord intentionnelle. Je crois ça très important à comprendre. Elle est d'abord intentionnelle. La causalité finale est d'abord intentionnelle. Je la porte d'abord dans mon esprit, d'une manière intentionnelle. Et vous savez bien, ce qui est premier selon l'ordre génétique conditionne tout le reste. Et quand on est en situation limite, la condition devient la détermination. Alors ça vous fait comprendre Don Scott. Parce que pour Don Scott, la causalité finale est métaphorique, parce qu'elle est intentionnelle. Et donc la condition est devenue détermination. Il faut expliquer les erreurs. Hein. Tant qu'on n'a pas expliqué l'erreur, on tombe dedans. Quand on l'a expliqué, il n'y a plus de danger. Et donc il faut expliquer. Il faut expliquer ce premier moment de la découverte de la causalité finale, où la causalité finale est d'abord intentionnelle. Voyez que là, cette causalité finale est très liée à la cause exemplaire. Causalité finale et cause exemplaire sont intimement liées dans le projet. La causalité exemplaire est toujours intentionnelle. La causalité finale n'est pas uniquement intentionnelle. Il y aura un moment où la causalité finale va dépasser l'intentionnalité. Et c'est pour ça qu'elle sera cause des causes. Alors que si la causalité finale était uniquement intentionnelle, elle ne serait jamais cause des causes. Et si la causalité finale demeure intentionnelle, qu'est-ce qui passe devant? C'est la causalité efficiente. Et ça explique ce que nous vivons aujourd'hui. Conséquence de Don Scott. Le monde est scottiste. Conséquence de Don Scott, c'est qu'au fond, la causalité finale est considérée comme métaphorique et donc quelque chose qui n'est pas pleinement réel. Toujours l'intention, c'est que on dira les gens réels, c'est ceux qui réalisent quelque chose, c'est l'efficacité. Voilà, le réel, c'est l'efficacité. Vous, oh, vous êtes idéal, vous avez une causalité finale, vous êtes l'idéal, ça. Oui, métaphorique, vous êtes scottiste. Immédiatement, parce que c'est ça, c'est l'intentionnalité. C'est expliquer la finalité uniquement l'intentionnalité, comme si on avait un idéal. Oui, mais la causalité finale, c'est pas l'idéal, c'est le réalisme le plus grand de l'homme. Un homme qui n'a pas de finalité, bien, il manque de réalisme. C'est la finalité qui me rend réaliste. C'est pas la causalité exemplaire. Et c'est pas l'efficience. L'efficience, c'est un certain réalisme, mais ce n'est pas le réalisme tout court, ce n'est pas le réalisme de l'esprit. Le réalisme de l'esprit va plus loin, parce qu'il doit atteindre quelque chose de plus, il doit atteindre le bien. Mais voyez, le premier moment, c'est pour ça que c'est intéressant, parce que le premier moment, génétiquement, ça conditionne tout le reste. Et donc certains blocages, ou certains, disons, blocages, ce n'est pas des blocages, certaines unions, c'est normal. Dans la causalité du fait chéré, c'est normal que la cause finale et la cause exemplaire soient unies, soient une. Et alors, ce qui est uni au niveau du fait chéré va conditionner tout le reste. Et la très grande difficulté que nous aurons, c'est d'arriver à discerner la différence entre la causalité exemplaire et la causalité finale. Et que la plupart du temps, on va rester là-dessus. Oui. Alors, on verra la fois prochaine ce passage de ce premier au premier selon de nature. Et selon le premier de l'ordre de nature, je vous le donne tout de suite, ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Alors, vous avez le principe de causalité finale au niveau métaphysique.